Chapitre 11. Moyens pour calmer l'agitation. Camilla, rejetant toute espèce de secours, resta dans cette situation jusqu'au moment où elle entendit frapper doucement à la porte. Mrs. Marle était descendue, Peggy alla voir qui c'était. Elle revint avec un billet qu'elle remit à Camilla, en lui disant qu'il venait de la personne qui lui avait lu des prières. « Il est donc parti ?» dit-elle d'une voix qui annonçait la surprise et la douleur. « Oui, miss, il vient de sortir !» Elle découvrit son visage et, levant les mains au ciel, « Oh, Edgar ! » s'écria-t-elle, « vous m'avez vu et vous m'avez abandonné !» Elle prit cependant la lettre et tâcha de la lire avec le secours d'une lumière. Mais sa vue était trop faible pour la supporter. Ses yeux éblouis ne pouvaient distinguer un seul mot. Elle serra la lettre dans son sein et remit ses couvertures. Elle sentait toutefois son courage se ranimer involontairement. Elle avait vu l'objet chéri de son cœur pénétrer. Elle avait vu l'objet chéri de son cœur pénétrer de sa situation. Elle avait senti sa main mouillée de ses larmes. Les idées de ce monde, ses affaires et ses soins, qu'elle croyait avoir abandonnés pour toujours, se glissèrent dans son cœur, cet admirable asile de toutes les sensations, d'où une émotion ne sort jamais que pour faire place à une autre, et qui, durant son existence mortelle, se flatte en vain d'oublier une seule de toutes les sollicitudes humaines. Tandis qu'absorbée dans cette consolante rêverie, elle songea au retour imprévu d'Edgar et à son inexplicable apparition dans sa chambre, elle entendit frapper une seconde fois à sa porte. Peggy l'ouvrit, sortit un moment, et lui demanda en rentrant la réponse au billet, ajoutant que la personne qui l'avait écrit attendait sur l'escalier. « Il attend !» répondit Camilla, vivement émue. « Il ne s'est donc pas éloigné ?»« Il ne l'était que de votre chambre, » reprit Peggy. « Il dit qu'il ne peut point partir sans votre réponse. » Une sensation si délicieuse lui ôta presque la force de la supporter. Elle doutait de ce qu'elle voyait, de ce qu'elle entendait, et presque de son existence. Était-ce bien Edgar qui attendait sa réponse? Il était sous le même toit qu'elle, il sortait de sa chambre, et n'en était encore séparé que par une faible cloison. Non, disait-elle, je m'abuse, c'est une suite du délire de mon imagination. Peggy revint et réitéra sa demande. Alors Camilla demanda une seconde fois de la lumière. Et l'espoir qui renaissait dans son cœur lui rendit assez de force pour lire le billet suivant, cacheté et sans adresse. « Je n'entreprendrai point de vous peindre ni ma douleur, ni le trouble de mon âme. Pardonnez, ô Camilla, à l'indiscrétion d'une importunité forcée par les circonstances. Daignez ne vous souvenir que de notre ancienne et tendre amitié et de l'heureux temps de notre enfance. Daignez ensevelir dans l'oubli tout ce qui a pu troubler notre innocente et sincère affection. Permettez-moi d'aller informer Mrs. Taylord, ou confiez-moi, je vous en conjure, le mystère de cette affreuse désolation. Oh, Camilla, au nom de tout ce qui s'est passé entre nous et de l'impression ineffaçable qui subsiste dans mon cœur, ne rejetez point les services d'un ami sincère que vous plongeriez dans le plus affreux désespoir. E. M. » Attendrie et baignée de larmes, elle lui fit dire qu'elle acceptait ses services avec reconnaissance et qu'elle lui aurait la plus vive obligation de vouloir bien informer ses parents de la situation où elle était. Lorsque Peggy revint lui dire qu'Edgar était parti, elle lui demanda pourquoi on l'avait introduit chez elle sous le caractère d'un ecclésiastique. La petite lui raconta ingénument que sa maîtresse connaissait très bien ce monsieur, qu'il se nommait M. Mandelbert et qu'il résidait dans une grande maison distante de quelques milles. « Il venait, ajouta-t-elle, de descendre chez nous pour rafraîchir ses chevaux, lorsque je demandai à ma maîtresse la permission d'aller chercher pour vous le ministre de la paroisse. M. Mandelbert demanda qui était malade dans la maison. Et ma maîtresse lui répondit que c'était une dame que la vue d'un cadavre avait si violemment effrayée qu'elle en avait eu le délire et qu'elle demandait sans cesse qu'on lui lût des prières. » Que son mari était occupé pour le moment, mais qu'il lui ferait cette lecture dès qu'il en aurait le loisir, car elle n'avait personne à envoyer à 3000, et qu'en tirant le rideau, elle ne saurait pas si c'était un ecclésiastique ou un laïc. M. Mandelbert demanda si la malade était du canton. « Non, répondit Mrs. Marle, et si elle n'avait pas été connue de Peggy, nous aurions de l'inquiétude, car depuis qu'elle est chez nous, elle ne nous a rien payé. Cependant, elle nous a donné une montre d'or et un bracelet pour sûreté. » Il lui fit encore d'autres questions, puis il demanda à voir le bracelet. Lorsqu'il eut regardé, il devint pâle comme la mort et dit qu'il voulait parler à cette dame malade. Ma maîtresse lui répondit qu'elle était couchée sur son lit et qu'il n'était pas possible de l'introduire dans sa chambre où son mari allait lui lire des prières pour la tranquilliser. Mais M. Mandelbert dit que si elle voulait aller tirer seulement les rideaux, afin qu'elle ne le vît point, il se chargerait lui-même de lire des prières. La maîtresse s'y refusa d'abord. Mais Peggy lui ayant dit que cette pauvre dame se désolait, ils montèrent ensemble. « Ah, cher bijou !» se dit tout bas Camilla. « Cher bijou que j'ai tant aimé, combien tu vas me devenir encore plus précieux! Je te porterai sur mon cœur jusqu'à mon dernier soupir !» Le calme qu'amenèrent ces douces réflexions lui rendit une nouvelle existence et bientôt le sommeil s'empara de ses sens. Il ne fut plus troublé par des visions hideuses. Elle crut apercevoir sa mère, non pas menaçante et irritée, mais contemplant avec douleur sa fille expirante et rendant entre ses bras le dernier soupir. Réveillée par la frayeur, elle se leva sur son séant et appela à haute voix sa mère en la cherchant des yeux dans toute la chambre. Elle crut l'apercevoir au pied de son lit. Elle tâchait, en passant la main sur ses yeux, de rassurer sa vue. Mais l'objet, loin de s'évanouir, lui parut plus distinct. Elle se pencha sur le bord de son lit pour se convaincre. Mais elle doutait encore, quoiqu'elle vît toujours la même figure. Poussant enfin un profond soupir, « Il est incroyable, s'écria-t-elle, que je ne puisse jamais distinguer si je dors ou si je veille. » La figure s'éloigna, mais le mouvement de sa marche lui parut si frappant qu'elle cessa de croire que c'était une illusion. Frappée d'étonnement et d'une sorte d'épouvante, Camilla ouvrit davantage son rideau pour la suivre des yeux. Elle s'était approchée d'un buffet où, la tête sur ses mains, elle semblait verser des larmes. Camilla ne put distinguer son visage, mais l'ensemble de la personne ressemblait parfaitement à sa mère. Le doute, la crainte et l'espoir tenaient en suspens toutes les facultés de son âme, jusqu'au moment où la figure, ayant baissé son bras droit, découvrit tout un côté de son visage. « C'est elle-même ! C'est ma mère » s'écria-t-elle, et elle se jeta du lit sur le plancher. « Oui, c'est votre mère !» répéta tristement Mrs. Tyrold. « Et quel spectacle, ô Camilla, elle a trouvé à son retour ! Sa maison déserte, son fils en exil, Eugénia perdue, son mari, hélas ! Et toi, l'enfant de son cœur, l'objet de ses alarmes et de sa prédilection, où te rencontre-t-elle, Camilla ?» Elle voulut la relever et l'aider à se remettre sur son lit. Mais Camilla ne voulut ni souffrir qu'elle l'aidât, ni lever les yeux. Elle tourna son visage contre le plancher et l'appuya sur ses mains, sans parler, sans se mouvoir, et déchirée par ses remords. « Réprimez, lui dit Mrs. Tyrold d'un ton doux mais ferme, réprimez cet excès de sensibilité qui nous met inutilement l'une et l'autre à la torture. Levez les yeux, ma chère enfant, et reposez votre tête sur le sein de votre mère. »« Oh, ma mère !» répéta Camilla d'une voix étouffée. « Ai-je donc encore une mère ? Daigne-t-elle encore avouer pour sa fille, celle qui a trompé son espoir, détruit son bonheur et offensé si violemment son père, le meilleur et le plus tendre des pères ?»« Prions ardemment, lui dit Mrs. Tyrold avec un profond soupir. « Prions l'être suprême d'éloigner de nous le souvenir de ses malheurs et tâchons de mériter le retour d'un état plus heureux par des actions utiles et non par des vaines lamentations du désespoir. » Elle la fit remettre au lit en la conjurant de se calmer et de ne pas oublier que ses parents ne jouiraient de la paix et du bonheur que lorsqu'ils la verraient rétablie. Elle lui imposa la défense de ne faire aucune question avant de s'être rafraîchie par quelques heures de sommeil. « Ah, ma mère !» s'écria Camilla, « dites-moi donc auparavant si je puis espérer que vous me pardonnerez un jour. »« Hélas, ma fille !» lui répondit sa généreuse mère, « c'est à moi seule que j'en veux aujourd'hui de ne vous avoir pas plus tôt pardonné. » Camilla, saisie de joie, voulait encore s'élancer de son lit, quoique sa mère fût constamment auprès d'elle à tâcher de la contenir. Elle était si enchantée de lire dans les yeux de Mrs. Tyrold l'expression de la tendresse au lieu du ressentiment et d'être délivrée de tant de craintes que tous ses malheurs passés ne lui semblaient plus qu'un songe. Elle se livrait aussi délicieusement à la flatteuse idée d'être redevable de ce changement aux ailes d'Edgar. Tandis qu'elle était agitée de ses douces émotions, elle entendit le même bruit sourd dont elle avait été frappée durant le transport du cadavre. « Ah, ma mère ! » s'écria-t-elle. « Entendez-vous ce bruit confus ? Le misérable Bellamy n'est plus. Qu'est devenue ma sœur Eugénia ?» Mrs. Hyrol lui répondit qu'elle connaissait toutes les circonstances de cette malheureuse histoire et qu'elle la lui raconterait lorsqu'elle ne serait plus en état de l'entendre. « Mais comme je sais, ajouta-t-elle, que le repos n'a point d'ennemi plus dangereux que l'inquiétude, je vous apprends d'avance que votre sœur est en bonne santé à Esrington. » Ce supplément de joie rendit son bonheur presque complet. Mrs. Hyrol, ayant été informée par Peggy que depuis son arrivée dans cette auberge, Camilla ne s'était point déshabillée et n'avait presque rien pris, elle refusa d'avoir avec elle aucune espèce d'entretien avant qu'elle eût pris de la nourriture et du repos. On lui apporta immédiatement de quoi satisfaire le premier de ses besoins. Et pour la préparer à l'autre, Mrs. Hyrol exigea d'elle un profond silence et résolut de passer la nuit auprès de son lit. La paix de son âme, la nourriture et le silence qui régnait autour d'elle lui procurèrent bientôt le sommeil dont elle avait tant besoin. Et quoique souvent interrompu par un reste d'agitation, il ne cessa complètement que très tard dans la matinée du lendemain. Ses yeux s'ouvrirent pour contempler le bonheur. Elle se crut transportée dans un nouveau monde. Sa mère, penchée tendrement, guettait son réveil et faisait, en élevant ses mains au ciel, des vœux pour sa conservation. Camilla voulut serrer dans ses bras sa tendre mère, mais tandis qu'elle tâchait de s'avancer dans son lit, elle aperçut l'ombre d'une autre figure qui s'esquiva promptement. « Ah, ciel ! » s'écria-t-elle, « qui est-ce que je viens d'apercevoir ?»« Si vous êtes raisonnable et tranquille, je vous le dirai, » lui répondit sa mère, « et vous saurez par qui vous avez été veillée depuis une heure. »« Ah, c'est mon père ! » s'écria-t-elle, « ah, où cacherai-je ma tête coupable ?» Elle voulut s'envelopper de ses rideaux. « Vous la cacherez dans mes bras, dans le sein de votre père, » lui dit en s'approchant M. Tyrold. « Tout sera oublié sans retour, excepté nos actions de grâce à l'Éternel qui a daigné mettre fin à nos peines. »« Oh, mon père !» s'écria Camilla, oubliant sa situation et voulant se jeter à ses pieds. « Comment pouvez-vous me traiter avec tant de bonté ?» Sa mère la retint, tandis que M. Tyrol lui prodiguait les plus tendres caresses. Sa vive reconnaissance ajoutait à ses remords. « Je me croyais abandonnée, s'écriait-elle. J'ai douté de votre indulgence et j'ai désiré la mort. Oh, ma mère, est-il bien vrai que vous me pardonnez ? La vue de mon père et le souvenir du passé ne rappelleront-ils pas votre juste ressentiment ? Non, ma chère enfant, je n'ai plus que le regret de ne pas vous avoir plus tôt tendu ces bras qui vous pressent en ce moment contre mon sein. Ah, vous me rendez trop heureuse. Ah, ma mère, ma tendre mère, ce changement subi est trop violent, je n'ai pas la force de le supporter. Je savais que mon père me pardonnerait parce que l'offense lui était personnelle, mais je n'osais pas espérer de jouir encore de sa tendresse. » M. Tyrol la conjura de se calmer, mais voyant qu'il faisait de vains efforts pour vaincre la violence de son agitation, il l'invita à se joindre à lui pour rendre grâces à Dieu de son heureux retour dans sa famille. Cette auguste invitation lui en imposa. Elle obéit respectueusement et cette pieuse et courte cérémonie calma ses sens et tranquillisa son esprit. Le tumulte de sa joie fut remplacé par un bonheur paisible. Le sentiment de dévotion dont elle était pénétrée donnait un tour plus grave et plus doux à ses pensées. Ce n'était plus par des exclamations, mais par un silence éloquent qu'elle exprimait sa reconnaissance. Tenant dans une main celle de son père et dans l'autre celle de sa mère, elle les pressait alternativement contre ses lèvres. Ses yeux cherchaient leur regard et l'expression de leur tendresse répandait le baume de la félicité dans son cœur.